En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de l'intervention de Georges-Henri Soutou, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, intitulée « La contestation du nucléaire, histoire d'une perte de confiance ». Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé « Les ambiguïtés de la science » organisé par Jean Béchler de l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 3 décembre 2012.
Madame le Président, chers confrères, mesdames, messieurs, la contestation du nucléaire, histoire d'une perte de confiance, est évidemment un sujet de nature un peu différente que ce que vous avez entendu de la bouche de mes deux confrères précédents. Il faut bien voir que l'on est ici autant dans le domaine subjectif, je dirais, des perceptions, la confiance, ben bon, que dans celui des réalités, parce qu'on traite quand même d'une histoire du nucléaire depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale, réalités qui sont, et c'est aussi une difficulté, elles-mêmes difficiles à préciser. Je prends un exemple pour me faire comprendre tout de suite. On compte dans les 5 dernières années 37 ouvriers tués en construisant des éoliennes en Europe. Si on rapporte le nombre d'accidents, c'est malheureux, ils sont tombés d'échafaudage tout simplement, au pourcentage très faible d'électricité d'origine éolienne dans le monde, si on rapporte ça à ce que serait une production mondiale d'électricité connaissant le même taux d'accident dans toutes ces filières, on arriverait à près de 24 000 morts. Bon. Alors, il est évident qu'à chaque comparaison que l'on fait entre tel ou tel type de filière de production d'électricité, tel ou tel type d'effet, d'accident, etc., il faut faire extrêmement attention à l'utilisation que l'on fait des comparaisons et des chiffres. Je m'empresse de vous dire que je ne ferai qu'esquisser devant vous un chantier, présenter quelques pistes, essayer de voir quelques problèmes. Il n'est pas question de résoudre ce problème. Y a-t-il d'ailleurs un problème à résoudre ? Il y a surtout une situation à constater. Alors, je vous rappellerai que l'ère nucléaire commence non pas pour les spécialistes, mais pour le grand public, avec les explosions de 1945 sur le Japon. Mais j'attire votre attention sur le fait que, pour les contemporains, la destruction d'Hiroshima ou de Nagasaki est de même nature, à un point près que je vais souligner, que la destruction de Hambourg en 1943, épouvantable, de Dresde en 1945, ou dans le cas du Japon, de Tokyo, quelques mois auparavant. Et dans les trois cas, le nombre de morts à Hambourg, Dresde ou Tokyo a été beaucoup plus élevé qu'à Hiroshima ou Nagasaki. La seule chose, c'est ça qui, à l'époque, frappe les contemporains, c'est qu'il a suffi d'un seul avion et d'une seule bombe dans le cas d'Hiroshima. En ce qui concerne les radiations, allez-vous me dire, bien, il est très intéressant de voir que sur le moment, elles sont leur importance, leur rôle paraît sous-estimé. Les Américains ont publié juste après l'explosion d'Hiroshima un rapport pour le Congrès parce qu'il fallait justifier auprès du public américain les dépenses qui avaient été faites, qui s'appelle le Smythe Report, qui a donc été connu dès l'époque et qui décrit bien les effets de la bombe, souffle, chaleur, rayonnement immédiat, je dis bien flux de rayonnement immédiat, mais considère que les retombées radioactives et donc les radiations différées en quelque sorte sont finalement sans incidence. Les produits radioactifs, dit le rapport, ont été envoyés vers le haut par une colonne ascendante d'air chaud et se sont dispersés, je cite, sans dommage sur un large espace. Je pourrais développer, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais les premières expériences d'après-guerre, comme Bikini en 1946, les observateurs ne s'intéressent pas particulièrement au problème qui obsédera tout le monde par la suite, des retombées radioactives à longue distance. Le problème de la contamination radioactive sur de vastes espaces n'est pas vu tout de suite. D'autre part, immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, le nucléaire civil qui commence à balbutier n'est pas mal accueilli du tout. On est encore dans la période d'optimisme scientiste commencée au XVIIIe siècle. On fait confiance à la science et au progrès. La première pile atomique française qui diverge fin 1948, qui s'appelle Zoé pour zéro énergie, est accueillie avec enthousiasme et suscite même une campagne de promotion pour une boisson. Vous avez là l'affiche, n'est-ce pas ? Zoé, le soda atomique, donne une énergie infinie comme la pile atomique. On peut penser que la rayonnante jeune femme, malgré une petite touche de vulgarité qui nous est présentée ici, témoigne d'une approche globalement positive de l'énergie nucléaire civile à l'époque. C'est toujours le cas en 1955, lorsque l'on prépare la création de ce qui va être Euratom en 1957, et qu'on demande à lui, Armand, un rapport sur les perspectives du nucléaire. J'y reviendrai, donc je ne détaille pas maintenant, mais qui va être tout à fait positif. D'autant plus qu'en 1957, année fondamentale, juste après la crise de Suez, l'interruption, enfin la fermeture du canal de Suez à la suite des opérations militaires et de l'hiver grelottant que les Européens de l'Ouest ont passé en 1956-1957, dès 1957, l'Europe devient pour la première fois de son histoire dépendante à plus de 50% des importations d'énergie, de l'énergie importée, qu'elle soit charbon, pétrole, non, par rapport à l'énergie qu'elle produit elle-même. Alors, cette première phase d'optimisme, le nucléaire c'est bien, et il faut du nucléaire parce qu'on va manquer d'énergie, va donner évidemment ensuite, on va voir se succéder une autre phase, lui succéder une autre phase de doute. Premier problème concernant les retombées radioactives dans l'opinion publique commence avec l'accident ou l'expérience américaine thermonucléaire de 1954, dont les effets ont été beaucoup plus puissants que prévu. La direction des vents était peut-être mal calculée. Mais bon. Et des malheureux pêcheurs japonais, des habitants d'îles du Pacifique, ont été sévèrement irradiés. Ce qui a commencé à attirer l'attention du public sur ce danger évidemment difficile à décrire et à comprendre. Et à partir de ce moment-là, on voit monter l'inquiétude, d'autant plus que les essais nucléaires aériens sont la norme à l'époque, ils se multiplient par dizaines chaque année, soviétiques, américains, britanniques bientôt. Et on assiste d'autre part, à ce moment-là, c'est un point tout à fait essentiel, à une contamination, si j'ose employer le terme maintenant, dans un domaine nucléaire, une contamination du problème du nucléaire civil par celui du nucléaire militaire. À partir de 1956, on commence à mesurer dans l'atmosphère, en tout cas dans l'hémisphère nord, la montée de la radioactivité suite aux tests qui sont faits. Ça, ce sont des données parfaitement observables par les appareils de mesure. Or, d'autre part, au même moment, des études montre qu'il y a une corrélation entre l'augmentation, enfin la radioactivité ou une radioactivité augmente, qui augmente, et le développement de cancers plus nombreux. Il est évident que là, les inquiétudes deviennent très vives dans l'opinion. Et à partir de ce moment-là, l'opposition aux tests nucléaires dans l'atmosphère, qui sera vive à la fin des années 50 dans les opinions publiques, conduit bien sûr à l'opposition aux armes nucléaires et s'étend également au nucléaire civil. En outre, on assiste aux États-Unis à une convergence dans les années 60 entre l'opposition au nucléaire qui se développe, l'opposition à la guerre au Vietnam et l'opposition à ce qu'Eisenhower avait appelé dans son dernier discours le complexe militaro-industriel. Du coup, on conteste aux États-Unis et ailleurs, en particulier en France et en Allemagne, les nouveaux projets de centrales. À partir des années 70, on conteste les installations nucléaires, que ce soit des centrales, des centres de retraitement, etc., en ajoutant à l'inquiétude provoquée par le nucléaire, par les raisons que j'ai dites, les nouveaux courants non seulement écologiques, mais également anticapitalistes post-1968, c'est particulièrement visible en République fédérale et en France. Cette contestation vive, qui mêle nucléaire militaire et nucléaire civil dans une large mesure, est renforcée à partir de 1976-1977 par une crise bien oubliée qui est celle de la bombe à neutrons. Terme journalistique, le terme officiel, c'est engin nucléaire à effet de radiation renforcée et de souffle réduit, n'est-ce pas? Bon. La bombe à neutrons que les Américains envisagent en 76-77 d'installer en Europe pour lutter contre, en cas de guerre, la masse des blindés soviétiques, suscite une très violente campagne internationale. Elle est présentée comme l'arme capitaliste qui tue les gens tout en préservant les machines matérielles, etc., les installations, parce que c'est un rayonnement de neutrons qui ne détruit pas les matériels, mais détruit, évidemment, tue les hommes. Et un conseiller à l'époque du chancelier Brandt, l'ex-conseiller chancelier Brandt, qui n'est plus au pouvoir à ce moment-là, Egon Bahr, lance une fameuse formule: la bombe à neutrons est une perversion de l'esprit, n'est-ce pas? Une perversion de l'esprit. Bon. Contestation, qui d'ailleurs triomphe, puisque cette bombe à neutrons ne sera pas installée en Europe, donc une contestation qui débouche sur une victoire, ce qui est toujours très motivant, se poursuit par la contestation de la double décision de l'OTAN en 1979, c'est-à-dire la décision d'installer en Europe occidentale des missiles américains Pershing, censés répondre, bon, je résume, à des missiles soviétiques dits SS-20. Se développent, outre des manifestations gigantesques, des centaines de milliers de personnes, en particulier en Allemagne et en Angleterre, se développe ensuite au début des années 80 tout un argumentaire qui réunit la contestation des nouvelles armes nucléaires et la contestation du nucléaire civil dans une vision apocalyptique, je dirais de nature extrêmement écologique, baptisée l'hiver nucléaire, Nuclear Winter, l'idée que la planète disparaîtrait si un certain nombre d'explosions nucléaires provoquaient un changement profond de climat. Bien entendu, à peu près au même moment, commence la série des grands accidents nucléaires qui vont renforcer cette tendance. Three Mile Island en 1979, la centrale américaine, je rappelle qu'il y a zéro mort et peut-être 4 ou 6 personnes un peu irradiées. Mais enfin, il a quand même fallu évacuer toute une région autour de la centrale. L'effet médiatique a été désastreux et c'est l'arrêt du programme nucléaire aux États-Unis. Beaucoup plus grave en 1986, l'accident survenu à la centrale russe Tchernobyl, où j'y reviendrai, il y a eu beaucoup plus de dégâts. Et puis plus récemment, bien entendu, 2011, Fukushima. En outre, devant ces accidents spectaculaires, il y a une incompréhension dans le public des phénomènes scientifiques en cause, qui n'est pas absolument incompréhensible, disons, ou invraisemblable, cette incompréhension, mais dont les effets sont renforcés par une information incontestablement insuffisante. Je vous en donnerai des exemples jusqu'aux années 70 et même après. Je prends le cas de Tchernobyl. Sur le moment, les réactions sont très différentes selon les pays. La Suède et la Pologne prennent très au sérieux l'augmentation de radioactivité qu'ils détectent dans leur atmosphère et distribuent en particulier dans les régions menacées des pilules d'iode des comprimés d'iode, tandis que Moscou met des jours avant de dire qu'il s'est vraiment passé quelque chose et que Paris a absolument nié la moindre augmentation de radioactivité sur le territoire français, n'est-ce pas ? Qui, évidemment, n'était pas exact. Pour les uns, il y a eu au total 29 morts sur les 98 personnes gravement irradiées dans l'accident de la centrale. Pour d'autres, vous n'avez qu'à surfer sur Internet et vous verrez les chiffres les plus fantaisistes circuler, il y a eu 100 000 morts. Encore aujourd'hui, on a du mal à savoir exactement ce qui s'est passé. Le problème, n'est-ce pas, c'est que, indépendamment du fait que la centrale de Tchernobyl était construite selon un plan tout à fait mauvais, qui n'est pas du tout celui de la centrale occidentale, et qu'elle a été, l'accident a été géré par des gens qui étaient mal formés, pour dire le moins, le problème, c'est que il est très difficile d'évaluer les effets à long terme et sur les personnes et sur l'environnement d'une quantité incontestable, énorme de radiation provoquée par cet accident. En 1997, le rapport d'une revue anglo-saxonne qui fait autorité, Epidemiologic Review, fait état de 50 morts directes et de 4000 cancers supplémentaires à prévoir dans la suite, supplémentaires par rapport au nombre normal de développement du cancer dans une population donnée. Ceci dit, même si ces estimations sont, sujettes à caution et remplies d'incertitudes, je vous invite à lire le témoignage d'une journaliste qui est allée faire une enquête sur place, Galia Ackermann, Tchernobyl, retour sur un désastre, qui a été publié en français donc en 2006, qui est tout à fait intéressant. Et il y a une réalité malgré tout, c'est qu'encore aujourd'hui, toute une zone considérable autour de Tchernobyl est interdite, évacuée, et le reste. Bon. Dernier accident en date de ce type, c'est Fukushima, qui a provoqué la décision de l'Allemagne fédérale de sortir du nucléaire, ce qui aura d'immenses conséquences et pour le nucléaire et pour l'alimentation énergétique de l'Europe. L'Académie des sciences a publié, la nôtre, a publié en 2012 une brochure consacrée à l'accident majeur de Fukushima, qui est fort instructive sur les conséquences de contamination provoquée par l'accident, et aussi sur la difficulté qu'il y a à mesurer les conséquences à long terme de ces contaminations. Un article tout récent de l'International Tribune m'a appris d'ailleurs qu'on n'arrive pas à décontaminer au rythme prévu la zone de 20 km qui a dû être évacuée autour des centrales, ce qui fait que leurs habitants, il est très probable qu'ils ne remettront plus jamais les pieds, n'est-ce pas ? Parce que les Russes décontaminent ou pas autour de Tchernobyl, finalement personne n'en sait rien. Au Japon, on est très informé, les Japonais décontaminent très sérieusement et ils n'y arrivent pas, ça n'avance pas vraiment. Bon. Donc, une étude, je dirais, de type purement chronique, type journalistique, donne un résultat simple. Il y a eu au départ un espoir, une série de déchets, des désillusions et une perte de confiance, qui me permettrait de terminer ici mon exposé. Seulement, il est évident qu'on ne peut pas se contenter d'une explication aussi rapide. Il faut aller au-delà. La contestation nucléaire n'est pas simplement la réaction d'une foule horrifiée devant un accident. C'est une contestation active, organisée, argumentée, militante, avec un argumentaire qui est scientifique, économique, politique, moral. Et il ne faut pas oublier que tout du long, le problème du nucléaire civil souffert de la proximité du nucléaire militaire. Il convient donc d'analyser. Alors, je vais vous présenter un certain nombre de facteurs qui, à mon avis, ont contribué à cette situation, sans prétendre leur attribuer un ordre d'importance. Je les prends dans l'ordre qui me vient. D'abord, il y a une difficulté intellectuelle à comprendre ce genre de questions. La question des rayonnements et de leurs effets est très complexe. Elle dépend de beaucoup de facteurs. Les résultats sont des taux de probabilité, pas des effets absolus. Ce n'est pas parce que vous avez été exposé à tel degré de rayonnement que vous aurez forcément un cancer, mais vous aurez une probabilité plus forte peut-être de développer un cancer. Il y a d'autre part des notions très délicates de seuil, notions de seuil qui ont varié, sur lesquelles même les spécialistes ne sont pas d'accord. Toutes ces questions de seuil, de taux de probabilité, sont peu accessibles à des personnes qui n'ont pas eu un minimum de culture scientifique. D'autre part, le manque d'informations fait que la plupart des gens ignorent que les effets de la radioactivité sont contrôlés davantage et depuis plus longtemps que, par exemple, la pollution chimique. Dès 1928, les radiologues qui souffraient les premiers, n'est-ce pas, des effets de leurs observations radiologiques et qui étaient fort inquiets, ont fondé une commission internationale pour la protection contre les rayonnements ionisants, qui existe toujours, qui établit des normes, que la France, pour sa part, a adoptées dès 1934. En quelque sorte, la pollution radioactive, si vous voulez, a été la première à être prise en compte, étudiée et combattue. Ce n'est pas l'idée commune. Deuxième facteur, peut-être, on y a fait allusion tout à l'heure, la remise en cause du prestige des sciences dites dures, ou au moins de l'optimisme scientiste un peu béat du XIXe siècle. On constate dans les années 70 un recul du prestige des sciences exactes dans tout l'Occident, comme si la conquête de la Lune en 1969 avait marqué une sorte d'étape de fin de parcours. Je vous citerai un livre qui est paru en 1980, qui à l'époque a eu beaucoup de succès. Pierre Thuillier, qui était professeur de philosophie, d'histoire des sciences de l'Université parisienne, intitulé « Le petit savant illustré ». Alors, le titre, « Petit savant illustré », la couverture dessinée par Tardy, donne une impression, disons, de légèreté. Effectivement, la première partie du livre est constituée par toute une série d'histoires réjouissantes sur des théories scientifiques à la mode qui se sont effondrées les unes après les autres, ensuite, dans le ridicule. Mais derrière ça qui est amusant à lire, il y a une postface qui, elle, est moins amusante, intitulée « Contre le scientisme ». Cette postface, en fait, est énorme, mais c'est pratiquement un livre à elle toute seule. L'auteur explique que la science est une activité sociale, qu'il n'y a pas de science pure, que le scientisme est une idéologie envahissante. Je ne peux pas approfondir ce très long texte, j'en tire le sens. Aucun projet scientifique n'est neutre, aucun projet scientifique ne doit être à l'abri d'une critique de la part de la société. C'est pour moi un tournant essentiel qui prolonge, bien entendu, sur le plan scientifique, les effets bien connus pour d'autres disciplines de mai 1968, ce qu'on résume en disant mai 1968. Il s'agit d'étendre aux sciences dures la critique que subissent les sciences sociales. Et autre facteur, si en 1955, la nécessité économique, comme je vous l'ai dit, de l'atome apparaissait très clairement, par exemple dans le rapport Armand, et dans le sillage de la conférence de Genève qui se tient sur l'atome civil en 1955, à la suite du programme lancé par le président Eisenhower en 1953, Atoms for Peace, les États-Unis aideraient les différents pays à développer le nucléaire civil. S'il est entendu à ce moment-là que c'est indispensable parce que l'Europe est de plus en plus dépendante de l'extérieur, d'autre part parce que les combustibles fossiles vont vers l'épuisement dans le monde, d'autant plus que la consommation d'électricité, estime-t-on, va doubler tous les 10 ans et continuer à doubler tous les 10 ans, le nucléaire donc est indispensable et on pense détenir une bonne solution. On pense que l'énergie d'origine nucléaire sera compétitive avec l'électricité d'autres sources dès 1965. Et dans le cas français, on pense que ce sera possible dès 1965, ce qui était beaucoup trop optimiste, avec ce qu'on appelait le cycle complet du combustible, des réacteurs utilisant l'uranium naturel, produisant de l'énergie et du plutonium, qui serait ensuite extrait de ces centrales et qui servirait à une deuxième série de centrales dites surgénératrices, de réacteurs surgénérateurs, qui de nouveau produiraient beaucoup d'énergie et réussiraient à produire encore plus de matières fissiles qui n'en consommeraient, c'est-à-dire en fait l'énergie éternelle à bon compte. Donc l'optimisme perdure jusqu'en 1965. Et puis, dans la décennie suivante, à partir des deuxièmes moitiés des années 60, les présupposés vont changer. D'abord, le cycle complet est plus difficile que prévu. Il y a des difficultés techniques qu'on n'avait pas mesurées. C'est plus cher, bien entendu. C'est moins nécessaire parce qu'il y a davantage d'uranium dans le monde qu'on le pensait, donc la surgénération est moins nécessaire. Et d'autre part, les réserves de combustibles fossiles sont plus importantes que prévues. Finalement, le nucléaire est une option parmi d'autres. Ce n'est pas une urgence vitale comme on le pensait au milieu des années 50. Bien entendu, les deux chocs pétroliers de 74 et 78 vont relancer l'intérêt. Le programme français, nucléaire français de 1974 est là-dessus très net. Il y a tout un argumentaire qui est développé à l'époque pour le justifier, qui est d'ailleurs parfaitement cohérent, cet argumentaire. La seule chose, c'est que le temps a passé depuis 1965 et cette deuxième phase de développement, à partir du milieu des années 70, va tomber en plein dans une contestation croissante du nucléaire, y compris du nucléaire civil. Malchance, si vous voulez, ou plutôt croisement de chaînes de causalité à la Cournot, n'est-ce pas ? Causalité d'un côté des accidents du nucléaire et d'autre part d'un programme qui, à partir des années 70, trouve un équilibre et une justification scientifique et technique qu'il n'avait pas encore dans les années 50. Bon. En outre, par la suite, la France abandonnera la surgénération avec l'arrêt de Creys-Malville en 1997, ce qui compromettait beaucoup des équations économiques qui avaient été échafaudées pour justifier le programme et qui change toutes les données. Là aussi, on ne sera plus dans ce qui paraissait tout à fait cohérent en 1974. Bon. Alors, on s'est souvent demandé, autre série de problèmes, si cette contestation nucléaire n'a pas été aussi instrumentalisée par la propagande des uns ou des autres, voire même par de véritables manœuvres de pénétration, de subversion. Alors, bon, le nucléaire militaire a été moins contesté à partir de la signature en 1963 du traité sur l'arrêt des tests nucléaires dans l'espace et dans l'eau et dans l'air, n'est-ce pas, qui a réglé le problème des retombées radioactives. On peut voir très bien qu'il y a une période de calme qui se fait dans le domaine de la contestation du nucléaire militaire, mais cette contestation du nucléaire militaire va reprendre, je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 1979, avec la bombe à neutrons, puis 1979, la double décision, etc. On s'est demandé à l'époque si cette nouvelle vague de contestation n'avait pas été encouragée, voire même téléguidée de Moscou, pour des raisons évidentes. On ne pouvait pas répondre à cette question de façon sérieuse, mais depuis que l'on dispose des archives de la RDA, de l'ancienne Allemagne de l'Est, on a la preuve désormais que Berlin-Est a effectivement encouragé, financé et largement téléguidé le mouvement de contestation du nucléaire militaire en République fédérale pour essayer d'empêcher la mise en place des fusées américaines Pershing. D'autre part, certains thèmes de ces campagnes pacifistes des années 70-80, surtout en République fédérale, reprenaient ou croisaient certains thèmes écologiques, je l'ai dit à propos de l'hiver nucléaire, n'est-ce pas ? Il ne semble pas néanmoins que Moscou était tout à fait conscient de cela, l'ait vraiment souhaité. L'Union soviétique restait tout à fait favorable au nucléaire civil et ce n'est que tout à fait à la fin, 88-89, avec Gorbatchev, que Moscou a commencé à utiliser vraiment le thème de l'écologie pour condamner l'économie capitaliste. Jusque-là, ça n'apparaît guère. Néanmoins, la contamination, une fois de plus, du nucléaire civil par le nucléaire militaire a joué. Car, et c'est un nouveau point, on a assisté à un enchaînement et à une convergence des contestations. Ça aussi bien en République fédérale qu'aux États-Unis et en France. Le mouvement de la paix des années 50, avec le fameux appel de Stockholm en 1952, en général, la gauche extrême, l'ultra-gauche, la contestation de la guerre du Vietnam ou, dans le cas français, de la guerre d'Algérie, les événements de 1968, le développement d'une nouvelle sensibilité écologique, tout ça a contribué à renforcer les mouvements opposés au nucléaire militaire comme au nucléaire civil. L'analyse montre que la chronologie est parfaitement concordante et que ce sont très souvent les mêmes militants, voire les mêmes mouvements. Aux États-Unis, par exemple, on assiste en 1977 à la fondation d'un mouvement intitulé Mobilization for Survival, la mobilisation pour la survie. qui refuse et le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Le symbole et la cause en partie du succès de cette fusion des deux contestations, de l'ensemble, pardon, de ces contestations dans le public, et là aussi c'est le rôle de l'accidentel dans l'histoire, nous est donné par la sortie en 1979 d'un film, le China Syndrome, le syndrome chinois, qui est financé largement, comporte les plus grandes vedettes, en particulier Jane Fonda, n'est-ce pas, et qui décrit une catastrophe nucléaire causée par des dirigeants corrompus qui ne tiennent pas compte des procédures de sécurité des centrales nucléaires. Ce film remporte tous les prix possibles de cinéma. 12 jours après son lancement, une fausse manœuvre survient dans une vraie centrale nucléaire, Three Mile Island. Malgré mes longues années passées en Union soviétique, je n'arrive pas quand même à penser que le film avait été programmé juste pour sortir à ce moment-là. Néanmoins, c'est un fait, il sort 12 jours avant. Il y a donc un argumentaire tout trouvé pour le public. Jane Fonda représente et l'opposition au Vietnam, et l'opposition nucléaire maintenant, et la libération sexuelle qui, comme vous le savez, a joué un rôle essentiel dans toute cette période. Ce cocktail a été, à mon avis, plus efficace que toutes les manœuvres possibles du KGB. Dans le cas français, dans les années 70 également, je pourrais vous décrire toute une série de contestations violentes de centrales, Brinilis, Cress-Melville, Golfech. On a affaire à des mouvements complexes, en fait très politisés, et dans lesquels la contestation du nucléaire militaire a fini par déboucher sur la contestation du nucléaire civil. Ceci dit, un facteur absolument essentiel à mes yeux, même s'il intéresse peut-être davantage les spécialistes, c'est la politique américaine d'opposition au retraitement et au plutonium à partir des années 70. À la suite de la première explosion indienne en mai 1974, qui a été réalisée avec une bombe au plutonium, n'est-ce pas ? Et non pas à l'uranium enrichi. D'autre part, cette expérience indienne est le premier exemple d'une explosion rendue possible par l'aide apportée par un pays étranger à un programme national civil. C'était la filière canadienne que les Canadiens avaient aidé les Indiens à installer, à mettre au point, et c'est à partir de cette filière civile que les Indiens ont fini par extraire le plutonium nécessaire pour leur expérience. Cela montrait que la politique précédente, qui reposait sur la séparation fondamentale entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, avec des installations de types différents, des filières différentes, était finalement insuffisante. Alors, les États-Unis ont conclu qu'il faut une concertation entre pays fournisseurs de matériaux ou d'équipements nucléaires, mais pour notre sujet, ils sont absolument obsédés par le problème du plutonium. Pour des raisons qui ne sont peut-être pas suffisamment apparues à l'époque, mais que l'on peut maintenant mieux comprendre, et qui reste toujours intéressante, cette opposition américaine au plutonium, et donc au retraitement qui permet d'extraire le plutonium des barres utilisées dans les centrales, est très importante, parce qu'elle a, à mon avis, largement contribué à casser le développement du nucléaire civil. Les raisons sont les suivantes. Le plutonium peut s'extraire par un traitement chimique des barreaux irradiés dans une centrale. C'est plus facile, entre guillemets, hein, plus facile que de séparer l'uranium-235 de l'uranium-238 dans des installations de séparation isotopique. Bon. Deuxième point, il faut trois fois moins de plutonium. Les chiffres varient, mais dans tous les cas, c'est trois fois moins de plutonium que d'uranium enrichi pour fabriquer une bombe ou l'allumette fission d'une bombe thermonucléaire à fusion. En d'autres termes, le plutonium est parfait pour miniaturiser les engins et pour les placer à bord de fusées. Or, c'est la combinaison d'une bombe, d'une ogive thermonucléaire et d'une fusée, d'un missile, qui est la plus dangereuse du point de vue de la prolifération. Et là, le plutonium est particulièrement adapté. Troisième point, On avait longtemps cru que le plutonium restait longtemps dans des centrales normales d'utilisation pour l'énergie, dont on change le cœur tous les 2 ou 3 ans, serait finalement non pas de l'isotope plutonium-239, mais du plutonium-240, moins propre aux utilisations militaires. Donc on pensait que les centrales de production d'électricité ne poseraient pas de problème, parce que le plutonium qu'on pourrait en retirer ne serait pas propre à des explosions. Et qu'il fallait des centrales spéciales dans lesquelles le plutonium ne resterait que peu de temps, serait donc uniquement de 239, pour fabriquer des explosifs atomiques. Du plutonium comme les pâtes à l'italienne, al dente, si vous voulez. Bon. Alors, malheureusement, en 1962, les Américains ont découvert, ont prouvé que l'on pouvait parfaitement réaliser des explosions avec du plutonium-240. Donc là aussi, la fameuse distinction entre filière civile et filière militaire s'effondrait. Quoi qu'il en soit, cette position américaine a beaucoup compliqué le développement du nucléaire en général, parce que tout devenait suspect, y compris le nucléaire considéré comme fondamentalement civil. Ça a condamné aux yeux des États-Unis le retraitement, et ils ont tout fait, et ils continuent encore aujourd'hui à lutter contre l'installation d'usines de retraitement. Les Japonais doivent en faire démarrer une l'année prochaine, les Américains font tout pour essayer de l'empêcher. Parallèlement d'ailleurs, de façon très intéressante, 1974 aussi, les Américains, à travers la fondation Ford, commençaient tout un programme d'études visant à remettre en cause l'énergie nucléaire, là, fondamentalement, du point de vue écologique, par rapport aux autres sources d'énergie, par rapport aux énergies renouvelables, etc. Bon. Un dernier problème à analyser serait celui des lobbies. Bon, l'avant-dernier problème serait celui des lobbies. Alors, on a beaucoup parlé du rôle du pétrole, du charbon, évidemment. D'études à faire, je ne ferai pas avec vous, je suis un peu sceptique. Il y aurait également le lobby des éoliennes. Parce que si vous faites l'histoire des éoliennes en Europe, elles sont subventionnées très largement, d'abord dans le cadre du Danemark en 1989, puis avec des encouragements de l'Union européenne vers la fin de 1999. Il y aurait là toute une politique de subvention systématique à l'énergie éolienne qui mériterait d'être étudiée de près. Mais enfin, il ne faut pas absoudre, c'est mon dernier point avant de conclure, les responsables du nucléaire, de leur propre responsabilité, n'est-ce pas, de leur action. Il y a parfois eu un complexe de supériorité des savants et ingénieurs sur les hommes politiques ou les hauts fonctionnaires. Pour vous amuser une seconde, je prends une note d'Yves Rocard, physicien père de Michel Rocard. En 1956, au moment d'un grand débat au sein du gouvernement Guy Mollet, pour ou contre l'atome militaire. Yves Rocard estime qu'il faut absolument faire la bombe et la faire sauter, et il a comme argument, entre autres, il y a un aspect commercial. Nous allons faire du plutonium. Si on ne s'en sert pas, il faudra le vendre. Comment savoir s'il est bon? En en faisant éclater, n'est-ce pas? Il est évident que cet argument n'était pas destiné au commissariat à l'énergie atomique, mais aux responsables civils. Il y a eu, d'autre part, je passe plus vite, tout un effort considérable de mise en place de la sûreté nucléaire, la sûreté des installations nucléaires, l'intérêt des installations nucléaires, menée en particulier par Jean Bourgeois, qui est notre confrère de l'Académie des sciences, et ça dès le début, avec la mise en place progressive de procédures, la mise en place de différents organismes au ministère de l'Industrie, dans le cadre du CEA ou dans le cadre national en 1973 avec le Conseil supérieur de la sûreté nucléaire. Donc tout ça a été suivi dès le début très attentivement, mais a été contesté souvent sous l'accusation, au prétexte que ces organismes officiels seraient justement trop officiels et, je dirais, ferait trop de place aux responsables de ces technostructures. Même type de réaction aux États-Unis, n'est-ce pas? Même type de contestation aux États-Unis. Tout ça devrait être développé plus longtemps que je n'ai le temps de le faire ici, mais ça a contribué, à mon avis, à éroder la confiance de la population. Et il y a eu, d'autre part, le problème qui est différent de celui de la sûreté nucléaire, celui des déchets nucléaires. Il n'a été pris en compte que très progressivement. La première réunion du comité d'énergie atomique à se pencher sur le problème des déchets nucléaires est celle de décembre 1960, ce qui est quand même très tardif. Une note, enfin, est rédigée pour un comité d'énergie atomique qui va prendre le problème très sérieusement en mai 1962, qui dit ceci: « Le problème du conditionnement et du stockage des déchets est très important pour le développement de l'énergie atomique. En effet, toutes les industries ont leurs déchets. Elles arrivent tant bien que mal à les faire accepter par les populations qui les environnent. Nos propres déchets ont le tort d'être radioactifs. » C'est bien tout le problème. Et au cours de la réunion qui va se tenir donc en mai 1962, on lit que des masses considérables de déchets sont déjà emmagasinées à Marcoule. Elles nécessitent une réfrigération permanente. Ça coûte très cher. Malgré les précautions prises, un séisme pourrait entraîner l'écoulement dans la vallée du Rhône de millions de curies. Les populations avoisinantes sont parfaitement sereines parce qu'elles ignorent le danger, note le procès-verbal. Alors, on propose des solutions qui, évidemment, ne sont que, pour le moment, des palliatifs, c'est-à-dire placés dans des carrières ou des forêts un peu perdues en cours de reboisement. Néanmoins, très vite, le CEA va se pencher très sérieusement sur le problème. Et si vous lisez la Revue générale nucléaire de 1978, il y a un numéro consacré au traitement des déchets radioactifs qui est extrêmement complet, qui prévoit un cycle complet à partir justement de la surgénération qui permet dans les surgénérateurs d'éliminer pas mal de déchets, la vitrification et donc le stockage plus commode des déchets. Le CEA distribuait ce petit bloc cylindrique qui était censé représenter la totalité des déchets nucléaires produits par la production d'électricité nécessaire pour une famille française dans l'année. Bon. Seulement, tout ça qui est extrêmement sérieux et vient trop tard par rapport à l'opinion. Par la suite, il y aura des rapports beaucoup plus transparents que les rapports précédents, comme celui de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques en 1998, comme une brochure d'EDF en 2004 qui est extrêmement nette là-dessus et qui montre d'ailleurs déjà que le consentement au nucléaire en France, d'après un sondage qu'il a fait faire, a déjà nettement diminué. Les partisans du nucléaire n'ont plus qu'une majorité, même pas relative, puisqu'une majorité relative des sondés préfère l'arrêt progressif des centrales nucléaires, et ça dès 2002. Bon. Alors, pourquoi les Français ont-ils tenu plus longtemps que les autres? À mon avis, grâce d'abord à l'existence des grands corps techniques de l'État, qui sont très bien implantés dans la société, dans le pays, qui n'ont pas leur équivalent ailleurs, qui ont mené efficacement l'ensemble du programme dans un cadre connu et qui inspire confiance, qui inspirait confiance. D'autre part, les Français étaient très conscients du problème de leur économie depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le manque structurel d'énergie, très conscient des nécessités d'indépendance nationale et d'équilibre de balance des paiements. J'ajouterai que la politique d'EDF via la taxe professionnelle et le soutien aux municipalités a été très utile. Je conclue, Madame le Président, pour dire que, évidemment, maintenant, ce n'est plus la confiance aveugle. Il se dégage un certain nombre d'inquiétudes dans un ensemble nucléaire qui est extrêmement complexe et en pleine incertitude en ce moment, et la contamination du nucléaire civil par le nucléaire militaire a joué un rôle évidemment désastreux. Alors, que faire? Que suggérer? Il est probable qu'il faudra présenter au public de nouveau des programmes énergétiques à long terme cohérents, tenant compte des nouvelles données de l'économie européenne et mondiale. Il faudra probablement se livrer à une pédagogie par les coûts. À mon avis, il faudra revenir à la vérité des prix. Les subventions à certaines formes d'énergie renouvelable, les tarifs sociaux pour l'électricité, etc., brouillent complètement la compréhension par les électeurs des enjeux, n'est-ce pas? Bien entendu, transparence de l'information, mais je dirais non pas à sens unique. Il faudra lutter contre ce qui a été tout à fait déterminant à mes yeux, la contamination du nucléaire civil par le nucléaire militaire, avec une position française plus affirmée contre la prolifération et donc accepter de participer aux négociations de désarmement nucléaire. Ce qui n'engage à rien, les Russes et les Américains négocient depuis 1972, ça ne les a jamais sérieusement gênés. Faire un geste, si vous voulez. D'autre part, revoir complètement, voire relancer l'enseignement des sciences exactes dans l'éducation nationale, qui me paraît avoir cédé du terrain, en tout cas dans beaucoup de filières, par rapport à la place qu'elles occupaient avant. Et la même remarque vaut également pour les médias. Donc un problème qui comporte beaucoup de facettes, qui est extrêmement complexe, ne peut correspondre que des réponses multiples et se donnant évidemment le temps d'arriver à quelques résultats. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Georges-Henri Soutou, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, intitulée « La contestation du nucléaire, histoire d'une perte de confiance ». C'était dans le cadre du colloque intitulé « Les ambiguïtés de la science » organisé par Jean Béchler le lundi 3 décembre 2012 à l'Académie des sciences morales et politiques.